I'm a man.
Well, nobody's perfect.
I'm a man.
On commence avec un beau livre, un beau livre. Je vous le donne.
Ah, j'ai vu.
Ah non,
vous...
je vous le donne pas.
Ah bah merci. J'ai cru que j'allais avoir un cadeau de Noël,
non,
mais pas du tout.
Prête, hein.
Non, j'ai vu que vous en aviez parlé sur votre Instagram, Anthony.
Ouais,
alors, et souvent effectivement, c'est très très beau.
Il faut dire que souvent le beau livre déçoit, convaincu de sa beauté puisque c'est son nom même. Le beau livre tapine sur les tables des libraires. On le touche, on le désire, mais chez soi, le beau livre déchoit. Le voilà objet sans grâce, qui orgueilleusement pèse de tout son poids, tandis que son élégance n'est qu'une couverture pour de doctes évagations et des choix chromatiques discutables. Alors on va militer pour un beau livre qui renoue avec l'inédit, un beau livre qui annonce au lecteur « Me posséder fait de toi un happy few ». De ci, de là, des hameaux d'irréductibles agités du livre roi résistent encore. Alors sur la carte, prenez votre loupe et voyez Mexico. Mais alors attention, Mexico à Marseille. Puisque le dernier né des éditions Mexico, c'est le livre dont je vais vous parler ce soir. Il est jaune, il brille comme une citrine, il est beau comme un diamant jonquille. Son titre merveille, c'est un titre programme et un pluriel de promesses que le bouquin tient avec alacrité. Oui, rien ne pèse dans ce tellement beau livre. Merveille, manuscrit d'Orient, Encyclopédie d'Al Caz Winnie. C'est un livre de Laetitia Bianchi aux éditions Mexico. Alors merveille, merveille comme dans cet extrait. Les merveilles mettent l'homme en état de haïra, c'est-à-dire le laisse perplexe, contraint à l'immobilité, réduit à l'impuissance, comme un voyageur qui a perdu sa route dans un désert soudain devenu muet. Ça, c'est une citation d'Al Caz Winnie. Et Al Caz Winnie, c'est qui ? C'est un grand savant du XIe siècle. Il est né en Perse, dans une noble famille arabe. On l'a vu à Damas, on l'a vu à Bagdad. On lui doit une encyclopédie. Merveille des choses créées et singularité des choses existantes. Laetitia Bianchi nous explique que ce titre explicite bien le propos. Être une ode à la beauté, à la création, sous toutes ses formes, étoiles, animaux, plantes, mais aussi monstres et incongruités. Alors, merveille, c'est aussi à entendre, comme dans le cabinet de curiosité, les Mirabilia ou Mirabilia, évidemment, c'est là que je suis
pas au point. Votre latin vous fait des fois, cette heure-ci, mais c'est normal. Hein,
ce lieu rassemblant des trésors naturalistes et des chimères qui vous laissent ébobie. Et moi, j'aime tout ce qui coupe le souffle. Tout ce qui coupe mon souffle, avec ce livre, vous offrez des apnées diurnes. Alors, on va ouvrir la jonquille, je vous le propose, le diamant jonquille, on va effeuiller.
Allez.
Là, alors, on voit tout de suite que Laetitia Bianchi, elle a vu au plus large, et tandis qu'ici, elle a joué ric-rac. Je m'explique, ric-rac. Ric-rac parce que un livre, une émission de radio, un mariage, conduisent toujours à la même chose, faire des choix. Aussi, Merveille ne reproduit qu'une partie de l'encyclopédie d'Al Caz Winnie.
On ne peut pas tout mettre, j'imagine.
On ne peut pas tout mettre. Mais en même temps, c'est large parce que c'est là où le livre est une surprise, mais exceptionnelle, c'est que le livre ne s'arrête pas au premier manuscrit qui date de 1280, donc du vivant manuscrit illustré. Chaque fois quand je dis manuscrit, c'est avec énormément d'illustrations. Manuscrit illustré de 1280, non, non. Laetitia Bianchi, elle est allée voir 25 manuscrits arabes étalés entre 1280 et 1762. Ils sont, c'est selon, en arabe, en persan, en turc ottoman. Ils furent établis dans la région de Mossoul, en Afghanistan et en Inde, dans le Pendjab, en Iran, dont un à Shiraz, en Palestine, à Istanbul, à Bagdad. Ils sont conservés dans d'augustes bibliothèques occidentales et ces gantés de blanc qu'on les admire à Baltimore, Saint-Pétersbourg, Manchester, Bordeaux et bien sûr à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Je vous l'avais dit, Laetitia Bianchi a vu large. Je vous conseille d'ailleurs le site Gallica, qui est le site de la Bibliothèque nationale de France. Hein.
On peut consulter énormément de vieux manuscrits comme ça, de manière dématérialisée. Ça donne accès à des choses qu'on ne verrait pas dans notre vie.
On peut consulter le manuscrit, entre autres deux manuscrits différents, je crois, d'Al-Qazwini. C'est exceptionnel de pouvoir feuilleter ça. Il faut dire que le parti pris de Laetitia Bianchi, ça a été plutôt Carnaval des animaux, qui s'en plaindrait.
Très bien.
Qui va s'en plaindre. Les monstres, dit-on, ne vivent qu'en deux endroits, au début ou ailleurs. Et c'est dans ce coin-là qu'il y aurait aussi des animaux jamais vus. Ce là-bas, pour nous, c'est l'Orient. Ça l'a toujours été. Voyez le rhinocéros, le roc, un oiseau grand comme un bimoteur à hélice, ou la girafe, toutes ces petites bêtes que Dieu a créées à dessein. Les images sèment des indices de décryptage. Il y a de nombreuses images. Parfois, il y a la même image, qui est censée être la même illustration, mais au fil des siècles.
C'est ça, représentée différemment au fil du temps, en fait.
Et il faut dire que, évidemment, les illustrateurs parfois n'ont jamais vu la bête en question.
N'ont jamais vu
de rhinocéros ou de girafe. Donc c'est d'autant passionnant. Convenons, et donc il nous faut vraiment des indices de décryptage, parce que convenons que tandis que nous les admirons, il nous manque des clés, il nous manque des parce que au pourquoi posé par l'enfant, fasciné à vos côtés, ou celui que vous redevenez très clairement en lisant ce livre. Alors, est-ce que ces images, elles sont là pour rassurer? Pas sûr. Pour l'œil occidental, la plupart de ces images ne sont pas du cercle tranquillisant de la chrétienté. Est-ce que ces images sont là pour la connaissance? On pourra discuter ce côté-là, parce que il faut retenir vraiment qu'en cette période-là, voir et savoir, pour nous, l'observation, c'est la première chose pour accéder à la connaissance.
À la connaissance, oui.
Alors que pour la plupart de ces illustrateurs, encyclopédistes, etc., voir et savoir n'étaient pas forcément liés. Donc, c'est une idée vraiment...
Oui, c'était plus dans la tradition d'oralité, peut-être, de transmission orale.
Non, il y a vraiment une grande, grande tradition du manuscrit arabe. Mm-hmm. C'est plutôt le fait qu'ils savaient observer des animaux. Mais toutefois, ce n'est pas ça qu'ils mettaient dans les encyclopédies.
Okay.
Ce qu'ils mettaient, alors là par contre vous avez raison, c'est ce qu'on en savait déjà, ce qu'on avait retenu des histoires, des autres manuscrits, des voilà. Alors, donc c'est un carnaval des animaux, de ceux qui nous permettent d'oublier comme partout le gris règne, monstres et merveilles défilent, on chante la diversité et la joie de surprendre avec de pleines pages qui fourmille de compositions animales et humaines, végétales parfois. Le livre s'offre comme une merveille, une singularité. Il est incroyablement, vous ne verrez pas ça ailleurs, il est généreusement, je vous l'avais bien dit. Je vous propose qu'on écoute Kate Bush.
Chimney, just a pumpkin in my bed.
Une promesse de Kate Bush, December will be magic, magic, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Vous écoutez le Nobody's Perfect, je vous parle en ce moment de Merveille, manuscrit d'Orient, manuscrit avec un S, c'est l'encyclopédie d'Al Kwaswini et c'est Laetitia Bianchi aux éditions Mexico qui vous propose ce livre tout bonnement incroyable, jamais vu, une singularité véritablement. Il est à la fois une rareté, il est un caprice celui de l'éditrice et autrice Laetitia Bianchi. Mais attention, hein, c'est pas une fille versatile. Elle se donne les moyens, des moyens qui tiennent en une somme de travail considérable, parce que les éditions Mexico ne roulent pas sur l'or. Mexico, c'est plutôt une tiny house d'édition dont Laetitia Bianchi est la seule à tenir le toit au-dessus de sa tête. Dessous, donc, une bosseuse acharnée et une sélection de beaux livres que vous ne verrez pas ailleurs. Je vous conseille le site des éditions Mexico, qui est en plus très beau. Il faudrait un feuillet sur la mise en page, ce talent pour capter et garder l'attention du lecteur à chaque page tournée, vraiment grâce à la mise en page. Et puis, il y a aussi les notes marginales qui partent en diagonale. De vraiment, elles disposent les notes marginales comme ça, c'est très beau.
Il y a des choix graphiques qui sont intéressants.
Il y en a un autre, il faudrait un autre feuillet sur la qualité des textes, sur le choix des papiers, sur leur reliure, puisque le livre est une reliure, est monté avec une reliure suisse qui permet d'ouvrir le livre bien à plat, sans abîmer la couverture et casser le dos. Et donc ça, c'est vraiment aussi très agréable pour la lecture. Il faudrait un feuillet sur l'originalité des sujets, la cohérence d'un catalogue qui se dessine, proposer une histoire de l'illustration populaire. Mais la chronique est un art du bavardage, ric-rac aussi, donc on va avancer. Alors, je ne sais pas combien il y a d'illustrations dans le livre. Au doigt mouillé, je dirais mille et une. Ça vous convient, oui, ça vous parle,
oui,
hein, je pense qu'on est bien.
De ce que j'en vois, je dirais pareil.
Surtout, le livre est possédé par un art enfantin de la lecture. Je veux dire, ce lien « do it yourself » entre l'enfant et son livre. Je pense à l'album Panini. Qui avait ces albums Panini?
Ah bah, évidemment, j'en ai eu. Hein,
ouais.
Ah oui, oui.
Benoît, j'espère que vous aviez les...
Oui, mon fils poursuit la tradition.
Ouais, alors foot.
Foot, ben
ah bah
sûr,
oui.
Foot.
Alors j'ai eu l'album Panini de la Coupe du Monde 98, parce que le foot, Coupe du Monde 98, mais j'ai aussi eu l'album Panini de Aladdin, le film de Disney. On s'est changé les cartes, les autocollants à la cour de récré, et le but était vraiment d'arriver à le terminer. Et je crois que j'ai dû avoir aussi celui de La Belle et la Bête de Disney également, mais j'en ai eu des tas d'autres. J'ai dû avoir des Barbie, des trucs comme ça. Enfin,
alors moi, je me souviens de celui du Retour du Jedi au début des années 80. Je pense qu'on aurait conservé. Voilà,
oh là là, mais vous auriez été millionnaire.
J'aurais toujours vécu dans la même maison et il y aurait eu un grenier. Je pense que cet objet maintenant doit.
Ça doit s'arracher.
Ah oui. Ouais. Et alors pour moi, ouais, alors c'était vraiment incroyable de pouvoir avoir les images du film. Qui...
Puis la satisfaction d'arriver au bout de l'album Panini.
Alors,
c'est quand même quelque chose.
Dans mon souvenir, je n'ai jamais fini
mais
un album.
Super
Panini.
Dur, c'est ouais. Super. Dur.
Donc voilà, ce moment magique donc, qu'on vient d'évoquer finalement tous les trois, ce moment magique où l'enfant construit la maquette, construit les illustrations de son propre album, de son propre livre, avec un peu de hasard et d'imprécision dans les collages parallèles. Je vais citer l'éditrice. Ceci n'est donc pas un livre d'art. C'est un album Panini, maison d'édition italienne, connu pour ses albums d'images autocollantes à collectionner. Vous vous souvenez ? Ce n'est pas un livre, disaient les grands. C'est bourré d'images, ça ne se lit même pas. C'est un vrai livre, disaient les petits et les sages. C'est un livre qui contient l'émerveillement de l'enfance et le savoir du monde, la liste, la collection, la distinction, la rareté, la surprise, l'exhaustivité. Une fifimatique qui imprimerait l'éléphant, la girafe, le poisson-lune, voilà Al Kwaswini. Alors, fifimatique, un mot d'explication, c'est la machine que les frères Panini ont inventée pour pouvoir imprimer et mettre en pochette les vignettes. Il a fallu trouver un...
Des génies. Ah bah oui, parce qu'ils n'allaient pas découper à la main les
et
trucs.
Non,
et
il fallait les mélanger.
Et bien sûr, il fallait que ce soit random et qu'il y ait des chances qu'on ait des
donc,
doubles et tout ça.
C'était
bref, me lancez pas là-dessus, je suis en train de replonger dans un truc.
Donc, on retrouve cette magie véritablement dans ce livre qui travaille plus la vignette que l'illustration pleine page. Vous le verrez. Laetitia Bianchi a lu aussi tous ceux qui ont commenté au fil des siècles l'encyclopédie et ses illustrations. Elle a lu aussi tous les livres qui sont proches de ça. Par exemple, Le Voyage de Marco Polo, enfin, tous ces trucs.
Ouais,
tous ces trucs-là.
Ouais, les trucs, là, vous savez, vite fait.
Donc, elle a lu tout ça et elle réussit avec un montage toujours d'une grande acuité puis d'une certaine élégance, comme ça, à nous mettre en regard des citations, sans que le lecteur... Enfin, moi, je ne pense pas que le lecteur soit paumé, vraiment. Hein. Parce qu'il y a des chapitres très dessinés, certains consacrés aux oiseaux. Donc, on lit une partie sur les oiseaux. Et puis, d'autres fois, c'est plutôt consacré à comment ça avait été écrit à l'époque. Comment... Donc, voilà, on a ce côté-là aussi.
Oui, des aspects
aussi.
Un peu historiques
voilà.
aussi.
Donc, voyez le pan, par exemple. Je crois qu'il y a un post-it pour ce
talent.
Pan-là. Voyez le pan, un éminent commentateur le trouve, pas du tout réaliste, mais néanmoins identifiable. Laetitia Bianchi, piquante, zèbre cette docte assertion d'une note, ce qui soulève la question, qu'est-ce que la peinture ? Ma façon de dire... Si la peinture n'est pas l'art du pas du tout réalisme et néanmoins identifiable, qu'est-ce que c'est ? Revenons à ce pan pas du tout réaliste dont Al Kwaswini décrit les ocelles de la queue. Je cite l'érudit. Au milieu de chaque plume se trouve un anneau d'or sur un fond bleu-vert irisé, harmonieusement harmonieux, incarnation même de la beauté. Il y a dans cette description, ces quelques mots, il y a dans cette description vraiment cet effet de redoublement. L'adverbe suivi de son adjectif, hein, harmonieusement, harmonieux. C'est beau, c'est trop, et on croirait que c'est le moment où le pan ouvre son éventail de plumes. Dans cette répétition, il y a quelque chose aussi qui est assez émollient, qui est assez doux. Enfin, on voit comme toute la phrase de l'encyclopédiste dessine les plumes de l'animal, comme dirait l'autre, pas du tout réaliste, néanmoins identifiable. Cet exemple, juste pour vous dire que le texte vaut aussi le coup d'œil, et on retrouve le plaisir, parce qu'il faut être honnête, parfois, les beaux livres, on prend plaisir à les feuilleter, à les feuilleter, à les feuilleter.
Oui, on ne s'arrête pas forcément sur le texte.
On commence les chapitres, et puis finalement, il y a beaucoup de pages qu'on ne lit pas. Là, entre la mise en page très graphique, qui nous conserve, qui conserve l'attention du lecteur, plus la qualité du texte, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors, ajoutons aussi que l'autrice, outre une érudition jamais mastoc, est dotée d'un exquis esprit effronté, assez inédit dans la prose beau livre. Quelquefois, quand elle cite d'éminents prédécesseurs, on la voit lever les yeux au ciel. Alors, ce livre, c'est pour qui ?
C'est pour qui, Anthony ?
C'est pour toi qui aimes tous les animaux, déjà, tout simplement.
Oui,
c'est pour
vrai.
Toi qui aimes tous les animaux, dont les lapins avec une corne de narval entre les deux oreilles. Et oui.
Comme dans Cozy Grove.
C'est aussi pour toi qui aimes toutes les images avec dessous. Ceci n'est pas un lapin avec une corne entre les deux oreilles. Hein. Évidemment, on s'intéresse à la représentation, à l'illustration, et surtout, en plus, on s'y intéresse à travers les siècles. C'est pour vous qui aimez cet Orient fabuleusement doué pour les histoires, et tous ceux qui apprécient les beaux livres, qui vous le rendent bien. J'ajoute, car c'est un argument en cette période, que pour un budget beau livre, merveille est abordable. Quand on voit que maintenant un catalogue d'expo est immédiatement à 50 €, et encore c'est le prix bas,
petit minimum,
hein,
ouais.
Là on est sur un livre magnifique qui est à 35 €, donc vraiment une merveille, faut y aller. Rendez-vous sur le site des éditions Mexico, vous pouvez le commander en librairie, mais rendez-vous sur le site des éditions Mexico pour obtenir Merveille, manuscrit d'Orient, encyclopédie d'Al Kwasu Winnie. Je vous propose qu'on écoute Judy Garland.
If Santa Claus brings me any toys, I'm taking them with me. Okay. I'm taking all my dolls, the dead ones too. I'm taking everything.
Of course you are. I'll help you pack them myself. You don't have to leave anything behind. Except your snow people, of course. Pretty silly trying to get them on the train, wouldn't we? Soon we all will be together.
until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas.
Judy Garland, l'extrait évidemment du film Meet Me in St. Louis, l'une des plus belles chansons de Noël qui soit émouvante. Elle chante ça à sa petite sœur, je crois. C'est, voilà. Moi, je, ça m'est, enfin, à chaque fois, j'ai mon petit. Je suis étreint, comme ça, là. On passe à un livre, de nouveau, un choix. Le livre pas cher et qui fera un très beau cadeau.
Ah oui.
1000 milliards de rubans, la vraie histoire de la mode, Loïc Prigent. Loïc Prigent, vous le connaissez avec la visière de la casquette portée un peu trop bas, visière qui permet de dissimuler les sourires ironiques, qui permet aussi au regard fanal de Prigent de s'exercer. Ce type voit tout, pas dupe d'un monde, le monde de la mode, dont il est un acteur éminent écrin. Même si au fil des saisons, son émission 52 minutes de mode est un peu moins mordante, il faut quand même louer la qualité de la réalisation, l'écriture efficace sur le montage cut et l'usage ultra vif de la voix off. Et puis Loïc Prigent, c'est aussi quelqu'un qu'on suit sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être là où il est le plus intéressant, ou sur son site Moodboard, qui propose des articles de fond de haute tenue. Et puis, si Loïc Prigent hein, a ce regard qui voit tout, on le sait aussi, il a une oreille laser. Deux célèbres recueils de propos de catwalk, comme on dit, bref, de comptoir, l'attestent. Son dernier livre vient de sortir en poche. C'est un volume toilé, en dur,
très mignon, ouais.
Avec une illustration assez si sage et crinoline qui s'étale comme ça. Et puis, alors, il y a un lettrage rose, shocking, police 32 pour le nom, parce que maintenant l'auteur est célèbre, hein, Loïc Prigent fait vendre. Dessous, le titre 1000 milliards de rubans. Le titre joue l'hyperbole, 1000 milliards, on sait que c'est trop, toutefois, on sait aussi que ce n'est pas super original, hein, Loïc. 1000 milliards, les sabords du Capitaine Haddock, une chanson d'Old Laf, on n'écoutera pas. Un film, 1000 milliards de dollars avec Patrick Devers. 1000 milliards est aussi utilisé par des poètes ou des journalistes peu inspirés. Mais le sous-titre fait encore pire. Je m'en prends à la couverture, mais une fois à l'intérieur du livre, tout ira bien.
Okay.
La vraie histoire de la mode. Voilà le sous-titre. Mais alors pourquoi ce vrai? L'histoire racontée par les historiens ou les conservateurs de musées serait fausse. On attendait Loïc Prigent en grandes lettres rose fluo qui détiendrait comme ça la vérité d'une histoire pourtant largement renseignée avec de très bons livres. Bon, allez, je passe, sinon je vais m'énerver. C'est pas l'ambiance. Après avoir dit que ça ne s'arrange pas dans le livre quand même, parce que le livre ne contient aucune référence, aucune source, il n'y a pas de bibliographie, on n'écrit pas une histoire de la mode, fut-elle la seule vraie, sans avoir lu les autres. Mais bon, allez, une fois dedans, c'est un livre réussi, avec un préambule impec. Il met en scène les débuts de ce jeune plouc breton, comme il se présente, dans les salons de la maison Saint-Laurent. Ces drôles enlevés, sagaces, Prigent a vraiment le wit, cet esprit vif, argent et or railleur. Page 10, par exemple, c'est la fin d'un défilé. Le maître apparaît un instant, à la fin, on l'applaudit comme s'il avait sauvé un chiot de la noyade. Son histoire de la mode, il l'a fait débuter avec la robe la moins prête à porter de tous les temps. La crinoline. C'est pourtant cette invention, alors on est au 19e siècle, c'est pourtant cette invention qui annonce le monde de la mode moderne. Une invention promue par un régime autoritaire, le Second Empire, où l'impératrice Eugénie impose depuis son trône cette cage à femmes enrobées de dizaines de mètres d'étoffes d'étoffe. Sa longue description donne des pages réjouissantes et je vais vous faire un relevé. Avec la crinoline, l'Europe renonce au renoncement. L'apogée de la crinoline survient dans une société assez rance. C'est ce moment de gloire d'une bourgeoisie encore pieuse et qui n'aime que les miroirs flatteurs. Ce second empire pas très démocratique avec ses juges qui traînent en procès Gustave Flaubert pour sa Madame Bovary immorale. C'est l'apogée de l'art-pompier, ses toiles géantes, luisantes, clinquantes, qui raflent les médailles aux salons officiels avec leurs incendies de faits divers mythologiques, d'héroïnes par camions entiers, de bûchers patriotico-exotiques. Mode éblouissante comme un vitrail, pataude comme un buffet, ornemental à en avoir l'estomac retourné. La gloutonne crinoline s'offre un festin de tissus, des succulences de moire qui font ressembler la soie à la tranche d'une bûche de bois mauve. La crinoline est une déception, on rêve d'un fourmillement de pompons, mais on obtient un fourmillement de crottinettes. On pense fleurette, mais on obtient une gerbe. On promet d'être divin et on ressemble à une balustrade. La crinoline, c'est aussi la femme qui n'a pas le droit ni le temps de douter où on le verra de bouger. Des tumultes d'étoffes, des poires capitonnées, on se jure que ce sera une apothéose, mais c'est un cataclysme de nœuds, de fronces et de frangasses. Robes imposantes, symbole du succès de la bourgeoisie, robes parfaites pour aller cracher sur ces vulgaires peintres refusés au salon officiel, la féminité est censée naître de nappages sans limite, de tentures cramoisies et d'un étalage de 1000 milliards de rubans. Et oui, j'ai clos ce montage d'extrait par la première occurrence du titre « 1000 milliards de rubans ». Vous l'avez compris, même si on a des réserves, le style Loïc Prigent est là et il emporte tout. C'est vraiment, vraiment bien écrit. Convenons que les billions de rubans en jettent et convenons que l'auteur vous brosse comme ça, à main levée, une toile peinte avec un étonnant effet de troussé. Détroussé, à savoir assembler avec savoir-faire et promptitude un ensemble de descriptions techniques, de considérations sociales, historiques, de réflexions sur le corps de la femme. Détroussé, le mélange des niveaux de langue, syntaxe précise et incongruité, voire barbarisme, montage cut de couleurs franches, apposition de groupes nominaux, parfois des adjectifs comme des sequins et peu de verbes. Les verbes ne servent plus à ourler. Tout ça, ça s'appelle 1000 milliards de rubans, la folle histoire, la vraie histoire de la mode. Ah oui, tiens, j'ai un meilleur sous-titre, hein. La folle histoire, ça aurait été mieux. Loïc Prigent, c'est aux éditions Point, et c'est quand même un format poche en dur, donc un poil plus cher, mais c'est un format poche, donc ça fait un très joli cadeau.
Since it's Christmas, let's be glad. Even if your life's been bad, there are presents to be had. Take a walk out in the snow and hear Santa's ho, ho, ho. He's got a million miles to go. La, 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 la. Going on, and she knows if you've been bad or good. Christmas, let's be glad. Even if the year's been bad, there are presents to be had. A promotion for your dad. Don't be angry.